19h tout pile, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Avec les autres élèves de ma classe, on a discuté, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait laisser tomber et qu'on verrait demain. C'est pas super quoi.
Discuter plutôt que travailler. Le retour de l'école à la maison, perturbé aujourd'hui dans plusieurs régions, piratage et bugs.
Un coup d'accélérateur, le Stade de France, plus grand centre de vaccination du pays, a ouvert ses portes aujourd'hui.
Un coup d'envoi également pour la vaccination à domicile, précieuse pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
L'Europe tente d'apaiser les tensions avec la Turquie. Ses dirigeants sont à Ankara pour tenter d'impulser un nouveau départ dans les relations entre Ankara et Bruxelles. Il y a du boulot, nous dira Didier François.
Et puis on verra dans quel état d'esprit sont les troupes à la veille du choc de Ligue des Champions, Bayern Munich, PSG.
La météo avec Anissa Haddadi. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des régions, demain, sera sous le soleil.
Oui, après les fortes gelées matinales, en effet, Julien, le soleil va s'imposer presque partout. Si nous n'étions pas le 7 avril demain, je vous dirais que nous aurons droit à une très belle journée hivernale. Malheureusement, on est au printemps. Je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et des débuts chaotiques donc pour l'école à la maison avec des bugs en série depuis ce matin, au moins 6 régions touchées.
Oui, saturation des serveurs, attaque informatique, ça avait très mal commencé, mais ce soir, Virginie Riva, ça commence doucement mais sûrement à revenir à la normale.
Oui, ce soir on peut se connecter mais rien n'est fluide. Île-de-France, Centre, Hauts-de-France, Normandie, partout on peut entrer dans le serveur mais pas utiliser la messagerie ou bien on est rapidement déconnecté. Alexia est en terminale, elle a décidé de baisser les bras pour aujourd'hui.
Nous on a créé des groupes avec les autres élèves de ma classe. On a discuté, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait laisser tomber et qu'on verrait demain. C'est pas super quoi.
Des bugs à la fois sur les environnements numériques de travail, ces plateformes d'échange mises à disposition des régions et des départements, utilisées à l'échelle de l'établissement par les professeurs et les élèves, et sur le dispositif CNED, Ma classe à la maison, sorte de classe virtuelle. Jean-Michel Blanquer a tenté de s'en expliquer ce matin.
Sur ce qu'on appelle les environnements numériques de travail, ça dépend des collectivités locales qui dépendent d'un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques temps et donc qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexion ce matin. Par ailleurs, vous avez des attaques informatiques, hein, c'est le cas de ce qui se passe pour le CNED ce matin, apparemment venu de l'étranger.
Sur ces attaques à ce stade, pas plus d'informations quant à leur origine. Et sur la question des serveurs, tout le monde se renvoie la balle. Le groupe OVH, clairement ciblé ce matin par le ministre, fait depuis savoir que les problèmes n'ont rien à voir avec l'incendie de Strasbourg. Et pour la région Île-de-France, le problème viendrait plutôt de l'éditeur de contenu qui fournit aussi les Hauts-de-France et l'Aquitaine.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Des bugs qui n'ont pas empêché quand même Emmanuel Macron de se connecter en visio avec des élèves de 3e d'un collège d'Oraison, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, en plein pendant leur cours d'histoire géo.
Oui, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, il ne devrait pas y avoir, a priori, de nouveaux confinements, leur a-t-il dit. Et pour éviter de nouveaux confinements, justement, la meilleure arme, eh bien, on le sait maintenant, c'est la vaccination, Isabelle.
Avec l'ouverture aujourd'hui du Stade de France, deux grandes ambitions, 10 000 piqûres chaque semaine. Yasmina Katou a rencontré Jackie, spécialement venue de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Ça fait un mois qu'elle attendait ça.
Moi, je n'ai pas complètement l'âge non plus, j'ai que 62 ans, donc je n'étais pas dans les prioritaires. Mais en fait, je suis asthmatique, donc je fais partie quand même des gens qui ont des petits soucis de santé. Donc, on a des petits-enfants et on en avait un peu assez de prendre des risques chaque fois, donc on préfère être vacciné pour être protégé. On est bien obligé pour aider nos enfants qui travaillent, hein, surtout là avec les écoles qui ont refermé, la crèche qui a refermé. Il faut qu'on se rende disponible pour eux, donc pour nous c'était important de se faire vacciner.
Dans votre département, est-ce que vous avez tenté d'avoir un rendez-vous ou pas ?
Oui, on a tenté justement, et comme c'était impossible, puisque les centres qui étaient ouverts pour ça n'offraient aucun rendez-vous en disant que c'était complet, on a fini par trouver celui-là. Donc on a pris le premier rendez-vous venu et on s'est rendu compte après que c'était le premier jour en fait aujourd'hui.
Voilà, Jackie, toute nouvelle vaccinée, soulagée au micro européen de Yasmina Katou. En visite au Stade de France avec ses ministres de la Santé et de l'Intérieur, Jean Castex s'est félicité de l'accélération de cette campagne de vaccination.
Et en plus de cette vaccination de masse dans les grands centres, le gouvernement veut aussi développer la vaccination à domicile pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Et les infirmiers vont pouvoir récupérer leur dose demain et jeudi. Il y en a beaucoup hein, qui ont droit à cette vaccination, mais qui n'entraient pas jusqu'à présent dans les radars, Virginie Salmen.
Oui, parmi les 75 ans et plus, près de 40% ne sont toujours pas vaccinés. Ce sont ces personnes-là à qui il faut parfois apporter le vaccin à domicile.
Des personnes qui peuvent être grabataires, qui peuvent être perfusées, qu'on ne peut pas facilement déplacer en ambulance, hein, des gens qui sont sous oxygène.
Catherine Kiernidis, présidente du syndicat des infirmières et infirmiers libéraux, il va falloir organiser les tournées au millimètre.
La difficulté qui va se poser, c'est qu'on a un temps limité pour organiser la vaccination, puisque la durée de vie d'un flacon entamé est limitée dans le temps. Il faut qu'on utilise le flacon dans les 6 heures, y compris pour l'AstraZeneca. Et donc, pour un flacon qui fait 10 doses, peut-être 11 selon les types d'aiguilles, il faut avoir 10 personnes à vacciner dans les 6 heures qui viennent.
Au total, c'est un potentiel de vaccination de plusieurs millions de personnes, détaille Patrick Chamboré-Don, qui dirige l'Ordre national des infirmiers.
On sait environ qu'en France, il y a 5 à 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait qu'il y a énormément de patients qui sont concernés par la fracture numérique, donc on peut penser environ 10 millions de personnes.
Les infirmiers pourront aussi vacciner dans leur cabinet sur rendez-vous.
Les précisions de Virginie Salmen. La Commission européenne indique aujourd'hui qu'aucun des 27 pays de l'Union n'a atteint fin mars l'objectif de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans. Mais dit-elle, l'accélération des livraisons de vaccins devrait permettre d'atteindre l'immunité collective dès cet été. Aux États-Unis, la campagne de vaccination avance vite. Cette vaccination est même accessible depuis aujourd'hui aux plus de 16 ans dans la ville de New York.
Et puis toujours à propos de Covid, Isabelle, information pratique importante.
Oui, la France et l'Espagne vont affréter des avions et des ferries spéciaux pour rapatrier leurs milliers de ressortissants bloqués au Maroc. La suspension des liaisons aériennes la semaine dernière pour limiter la propagation du virus a bloqué en effet de très nombreux voyageurs. Le parquet de Paris fait appel de la relaxe partielle des laboratoires Servier dans l'affaire du Mediator, ce médicament tenu pour responsable des centaines de décès et l'un des pires scandales sanitaires français. Les laboratoires avaient été relaxés des délits d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché et d'escroquerie.
Dans les Ardennes, les gendarmes ont entamé une nouvelle série de fouilles pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin au lendemain des déclarations de Monique Olivier.
L'ex-compagne de Michel Fourniret a pour la première fois reconnu qu'elle avait joué un rôle dans la séquestration de la petite fille en 2003 et elle aurait également donné des indications sur le lieu où le tueur en série a enterré Estelle, des indications qui sont prises avec beaucoup de sérieux. Et puis le parquet national antiterroriste requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre Reda Kriket, jugé pour un projet d'attentat djihadiste déjoué en mars 2016. On était à quelques semaines de l'Euro de foot. Même peine requise pour deux de ses coaccusés.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, vous restez avec nous dans quelques secondes la suite du journal. Les dirigeants de l'Union européenne en Turquie pour tenter d'apaiser les tensions. Eh bien, c'est pas gagné.
Et puis J-1, avant le choc, Bayern Munich-PSG. C'est pas gagné non plus. On verra quel est l'état des troupes.
À tout de suite. La suite de votre journal sur Europe 1 et on parle donc de cette tentative d'apaisement des relations entre l'Europe et la Turquie.
Alors c'est l'objectif en tout cas de la visite du président du Conseil et de la présidente de la Commission européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen, qui sont arrivés aujourd'hui à Ankara pour y rencontrer le président turc, Recep Erdogan. Et on en parle bien sûr avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Un sommet, une rencontre réclamée par la Turquie mais qui en fait a assez peu de chances d'aboutir.
Oui c'est ça, en fait c'est un peu comme si un incendiaire invitait les pompiers à discuter devant l'immeuble auquel il vient de mettre le feu, puisque, rappelons-le quand même, les tensions qui sont réelles entre l'Europe et la Turquie ont été provoquées tout à fait sciemment par le président Erdogan. Ça a commencé par les interventions militaires en Syrie, en Libye, au Karabakh, pour se poursuivre par des actions maritimes très agressives contre Chypre et contre la Grèce, deux États membres de l'Union européenne dont le gouvernement turc refuse de reconnaître le tracé des eaux territoriales au point d'organiser des forages pétroliers dans leur zone d'exclusion économique sous la protection de sa marine de guerre. Alors tout ça, malgré plusieurs mises en garde de Bruxelles, qui, comme d'habitude, a pris un peu de temps à réagir, mais qui a fini par imposer des sanctions à la Turquie en septembre dernier, et cela à l'unanimité des 27, ce qui évidemment pèse très lourdement sur l'économie turque en pénalisant le commerce entre la Turquie et l'Union. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président Erdogan s'est montré très conciliant à l'égard de l'Europe dans ses toutes dernières déclarations, assurant que sa volonté était désormais de promouvoir un agenda positif qui permette de revenir à des relations apaisé.
Mais qu'est-ce qui permet de le croire, ça?
Eh ben absolument rien, c'est bien ça le problème. Recep Erdogan est un spécialiste de la déclaration à changement de pied sans que cela ait le moindre effet réel sur sa politique. La preuve, c'est qu'au moment même où il appelait à une reprise au dialogue avec Bruxelles, il prenait unilatéralement deux mesures en totale contradiction avec ses intentions affichées. Il a d'abord retiré la Turquie du traité européen contre les violences faites aux femmes. C'était la semaine dernière. Et il a fait arrêter hier plusieurs amiraux jugés coupables d'avoir signé une pétition qui rappelait que la Turquie doit absolument respecter le droit maritime international et particulièrement la convention de Montreux sur la liberté de navigation dans les détroits que Recep Erdogan veut remettre en cause dans le Bosphore. Le problème d'ailleurs était parfaitement identifié identifié par l'exécutif européen, qui a clairement fait savoir hier, avant de partir pour Ankara, qu'il ne se contenterait pas de mots et qu'avant de lever les sanctions, eh bien, il voulait voir des gestes concrets et des engagements durables de la part de la Turquie.
Bien, merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
L'actualité sportive à présent avec le coup d'envoi ce soir des quarts de finale aller de Ligue des Champions. Et pour le Real Madrid, eh bien, ce sera sans Raphaël Varane.
Oui, le défenseur français est positif au Covid. Il ne jouera donc pas ce soir avec son club contre Liverpool.
Autre rencontre à suivre, Manchester City, Borussia Dortmund. En attendant, bien sûr, le match de Paris demain, le PSG qui se déplace sur le terrain du Bayern Munich. Julien Fromont, quelles sont les dernières nouvelles d'un côté comme de l'autre ?
Eh bien, du côté du Paris Saint-Germain, tout d'abord, les joueurs sont en train de terminer leur entraînement à l'abri des regards. Pas de nouveau bobo pour le moment. Pour rappel, 5 joueurs majeurs sont absents. Marco Verratti, Alessandro Florenzi, les deux ont le Covid. Léo Paredes est suspendu et puis Lévin Kurzawa et Mauro Icardi sont blessés. Ça fait du beau monde, mais ce PSG amoindri veut encore croire en ses chances de qualification. Le capitaine Marquinhos.
L'état d'esprit, c'est le meilleur possible. Les grands matchs, quand ils arrivent, on est toujours très motivé pour affronter ce genre d'adversaires et jouer contre des grands joueurs. C'est une équipe qui est au top de sa forme, qui sont aussi invaincus en Champions League. Alors, il faut qu'on fasse un très grand match pour sortir avec un bon résultat d'ici.
Alors, le Bayern au top de sa forme, avec une confiance typiquement munichoise qui est affichée, même s'il y a des petits grains de sable hein, quand même dans la belle mécanique allemande. On vient de l'apprendre, l'attaquant allemand Serge Gnabry, qui était censé remplacer la star de l'équipe, Robert Lewandowski, blessé. Eh bien, Serge Gnabry est positif au Covid, donc il est forfait. Et c'est un vieil ami du PSG, Éric-Maxime Choupo-Moting, qui devrait débuter demain soir. Espérons seulement pour Paris, eh bien qu'il ne respecte pas la tradition qui veut que l'ex marque contre son ancienne équipe.
Aïe, merci Julien Froment. On espère en effet match que vous pourrez suivre en tout cas demain en direct et en intégralité
et
sur Europe 1.
Isabelle disait tout à l'heure avec un peu de malice, c'est pas gagné. C'est pas gagné ou pas pour Paris ?
Je ne sais pas. Pas mouillé. Voilà. On verra
type,
demain. Écoutez Europe 1 et vous le saurez.
Le type ne se mouille pas. Merci Julien pour ces précisions et ce pronostic très précis. Merci Isabelle Millet. On vous retrouve demain à partir de 18h. La météo avec Anissa qui nous annonce que l'instabilité gagne le sud et la Corse demain.
Oui, en fait, nous aurons sur l'extrême sud-est demain, Julien, sur la Corse et la Côte d'Azur en particulier, un ciel plus couvert avec des averses, un petit peu ce que nous avons eu en Normandie, en Île-de-France et dans le Grand Est aujourd'hui, des averses, des giboulées avec du grésil et de la neige mêlée. Sur le Cotentin, le ciel est couvert et puis en Alsace, là aussi, le ciel sera un petit peu plus gris. Partout ailleurs, le soleil va dominer sur tout le pays dans un froid glacial, moins 6 à 0 degrés sur la moitié nord. Demain matin, nous auront moins 1 à Paris et puis dans l'après-midi ça baisse aussi dans le sud avec seulement 12 à Bordeaux, 15 à Marseille et 16 à Montpellier. Sur la moitié nord, encore du froid, 10 degrés à Marseille, 9 à Nancy et Lille et 7 degrés pour Dunkerque. Vous l'avez compris, écharpe et lunettes de soleil.
Écharpe et lunettes de soleil, bah c'est noté.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.